أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقل مسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré, la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad, Al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Ce qui signifie cinq prières que Dieu a prescrite sur les esclaves, celui qui les accomplit parfaitement, il a la promesse de Allah d'entrer au paradis. Et celui qui ne les accomplit pas, si Dieu veut, il le châtie, et s'il veut, il le fait entrer au paradis. Rapporté par Ahmed. Donc cinq prières que Dieu a prescrites sur les esclaves, celui qui les accomplit parfaitement, il a la promesse de Allah d'entrer au paradis, et celui qui ne les accomplit pas, si Dieu veut, il le châtie, et s'il veut, il le fait entrer au paradis. Parmi les devoirs, il y a cinq prières pendant le jour et la nuit. Donc cela signifie qu'il n'y a pas d'autre prière obligatoire que ces cinq-là. Nous en comprenons que la prière de Al-Witr n'est pas obligatoire et que celui qui n'accomplit pas les prières surrogatoires telles que la sunna du Dhuhr ou celle du Asr et autres que celles-là ne tombe pas dans le péché. Donc le hadith nous indique que celui qui accomplit ses prières, donc il a une grande récompense, et celui qui ne les accomplit pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si Dieu veut, il le châtie, si il veut, il le fait entrer au paradis. Cela nous indique que c'est un musulman. Même s'il a délaissé donc les prières, par paresse, c'est un musulman grand pécheur. Parce que si c'était un mécréant, le prophète n'aurait pas dit « si Dieu veut, il le fait entrer au paradis ». Donc les délaisser par paresse, c'est un grand péché, mais les renier ou les rabaisser, ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Concernant le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, « Man raghiba an sunnati falaysa minni » ce qui signifie « celui qui se détourne de ma sunnah n'est pas des miens ». Cela veut dire que celui qui délaisse ma charia, ma loi, c'est-à-dire celui qui déteste ma voie avec laquelle je suis venu, celui-là est mécréant. C'est cela le sens du hadith. Donc le hadith ne veut pas dire celui qui déteste les actes surrogatoires. Donc sunnah, ici, c'est dans le sens de la voix du prophète. Celui qui déteste la voix du prophète, il est mécréant. Donc le hadith ne veut pas dire celui qui délaisse les prières surrogatoire où les actes sunna ne sont pas obligatoires. Parce que le mot sunna peut avoir le sens des actes surrogatoires et peut donc avoir le sens de la voie du prophète, c'est-à-dire sa loi qui comprend la croyance et la pratique. Al-Bukhari a rapporté, d'après Talha ibn Ubaydillah, qu'un homme est venu au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Ô messager de Allah, apprends-moi ce que Dieu a rendu obligatoire sur moi comme prière. Le prophète a dit: Khamsu salawat, ce qui signifie 5 prières. Ensuite, il a dit: Apprends-moi ce que Dieu a rendu obligatoire sur moi comme jeûne. Ensuite, il a dit: Apprends-moi ce que Dieu a rendu obligatoire sur moi comme aumône. Il lui a appris les lois de l'islam. L'homme est parti en disant: Par celui qui t'a honoré par la prophétie, je ne ferai ni plus ni moins de ce que Dieu m'a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aflaha ar-rajulu in sadaq, ce qui signifie: l'homme a réussi s'il a dit vrai, c'est-à-dire en ce qu'il a juré, qui est le fait qu'il ne ferait rien des œuvres surrogatoires, qu'il ne délaisserait rien des obligations. Car le prophète lui a appris ce qui est obligatoire, ce qui est interdit. Donc le prophète, il a dit: l'homme a réussi s'il a dit vrai, c'est-à-dire en ce qu'il a juré, qui est le fait qu'il ne ferait rien des œuvres surrogatoires, qu'il ne délaisserait rien des obligations. Car le prophète lui a appris ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Donc cela indique que celui qui délaisse ce qui est surrogatoire n'a pas commis de péché, mais bien sûr il a raté des récompenses. Ainsi, cela montre l'invalidité de ce qui est propagé chez certains gens du commun qui disent que le prophète aurait dit: celui qui ne prie pas ma sunna n'est pas de ma communauté, et celui qui ne prie pas ma sunna viendra au jour du jugement en n'ayant aucun morceau de chair sur le visage, et celui qui ne prie pas ma sunna n'aura pas mon intercession. Ils visent par cela les prières surrogatoires. Tout ceci est un mensonge sur le messager et un égarement. Ils n'ont pas d'excuses par le fait qu'ils visent par cela le fait d'inciter les gens à faire les prières surrogatoires. Donc, bien sûr, il n'est pas permis de mentir sur la religion, d'inventer des hadiths pour, soi-disant, inciter les gens à faire des prières ou des actes surrogatoires. Donc, par ailleurs, comme on l'a dit, celui qui délaisse la prière obligatoire commet un grand péché, mais ne devient pas mécréant s'il ne la renie pas. Ainsi, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad, man ata bihinna bitamamihin, kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu al-jannah, wa man lam ya'ti bihin, falaysa lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu al-jannah, in sha'a azabahu. Ce qui signifie: 5 prières que Dieu a prescrites sur les esclaves, celui qui les accomplit parfaitement, il a la promesse de Allah d'entrer au paradis, et celui qui ne les accomplit pas, si Dieu veut, il le châtie, s'il veut, il le fait entrer au paradis. Ainsi, la parole du prophète qui signifie: s'il veut, il le fait entrer au paradis, indique que celui qui n'accomplit pas la prière n'est pas mécréant, mais c'est un grand pécheur. Donc, ce qui a été rapporté comme hadith dans le sens apparent comporte la déclaration de mécréance de celui qui délaisse la prière, il n'en est pas visé le sens apparent, mais il est interprété. Donc, il y a des hadiths dont le sens apparent, ça laisserait croire que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Mais dans ces cas-là, les hadiths sont interprétés pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Car dans les hadiths du prophète, Entre les hadiths, il n'y a pas de contradiction. Et entre les hadiths et les ayats du Coran, il n'y a pas de contradiction. Donc, tel que le hadith, Bayn al-Abdi ou Bayn al-Kufri tarku salah. Donc, ainsi, ce hadith ne veut pas dire que celui qui délaisse la prière est mécréant. Mais ce qui est visé, c'est qu'il ressemble au mécréant. Ceci afin d'indiquer la gravité de son péché. Donc, ça veut dire qu'il ressemble au mécréant pour montrer la gravité de son péché. C'est-à-dire, c'est un grand péché, mais qui ne fait pas sortir de l'islam, sauf s'il renie ou il se moque de la prière. Parce que l'autre hadith confirmé, le prophète, il dit, s'il le veut, il le fait entrer au paradis. Et s'il le veut, il le châtie pour celui qui a délaissé la prière. Donc, le hadith rapporté par l'imam Ahmad. Ça veut dire qu'il n'est pas. Donc, mécréant. Sauf s'il la renie ou il se moque de la prière. Donc, le temps de Adh-Dhuhr commence quand le soleil s'écarte du zénith, c'est-à-dire lorsqu'il décline du milieu du ciel vers l'ouest. Donc, le temps de Adh-Dhuhr commence quand le soleil s'écarte du zénith, c'est-à-dire lorsqu'il décline du milieu du ciel vers l'ouest. Il prend fin lorsque l'ombre d'un objet quelconque atteint la longueur de l'objet lui-même, en plus de l'ombre qu'il avait quand le soleil était à son zénith. Ainsi, quand la nouvelle ombre a atteint, après avoir retranché l'ombre du zénith, une longueur égale à celle de l'objet, le temps de Adh-Dhuhr est terminé et le temps de Al-Asr commence. Le temps de Al-Asr dure jusqu'au coucher du soleil. Donc on répète, le temps de Adh-Dhuhr commence quand le soleil s'écarte du zénith, c'est-à-dire lorsqu'il décline du milieu du ciel vers l'ouest. Il prend fin lorsque l'ombre d'un objet quelconque atteint la longueur de l'objet lui-même, en plus de l'ombre qu'il avait quand le soleil était à son zénith. Ainsi, quand la nouvelle ombre a atteint, après avoir retranché l'ombre du zénith, une longueur égale à celle de l'objet, le temps de Adh-Dhuhr est terminé et le temps de l'Asr commence. Exemple. Prenons l'exemple d'un bâton qu'on plante droit, sur un sol droit, et qu'il dépasse de 1 mètre. Quand le soleil arrive au milieu du ciel, ce n'est pas encore le temps de Adh-Dhuhr. Le temps de Adh-Dhuhr rentre quand le soleil a quitté le milieu du ciel. Mais quand le soleil est au milieu du ciel, on va mesurer cette ombre car on en aura besoin pour après. Donc nous mesurons l'ombre. Exemple, nous trouvons 30 cm pour l'objet qui dépasse de 1 mètre. Donc c'est l'ombre à retenir 30 quand le soleil était au milieu du ciel. Dès que le soleil quitte le milieu, c'est rentre à Dhuhr. Et l'ombre donc va s'agrandir. Elle fait plus 30, elle fait 30 et un peu plus. Quand est-ce que finit le temps de Adh-Dhuhr? Quand l'ombre, en plus des 30, elle fait la taille de l'objet. La taille de l'objet, dans notre exemple, 1 mètre. En plus des 30, ce qui fait en tout 1 mètre 30. Donc quand on retranche l'ombre du zénith 30, on trouve bien 1 mètre la taille de l'objet. Donc, ce qui nous donne, le temps de Dhuhr commence quand le soleil s'écarte du zénith, c'est-à-dire lorsqu'il décline du milieu du ciel vers l'ouest. Il prend fin lorsque l'ombre d'un objet quelconque atteint la longueur de l'objet lui-même, en plus de l'ombre qu'il avait quand le soleil était à son zénith. Ainsi, quand la nouvelle ombre a atteint, après avoir retranché l'ombre du zénith, une longueur égale à celle de l'objet, le temps de Dhuhr est terminé. Et le temps de Al-Asr commence. Le temps de Al-Asr dure jusqu'au coucher du soleil. Quant au temps de Al-Maghrib, il commence avec le coucher du soleil et prend fin à la disparition de la lueur rouge. Quant au temps de Al-Maghrib, il commence avec le coucher du soleil et prend fin avec la disparition de la lueur rouge. Donc on a dit Quant au temps de Al-Maghrib, il commence avec le coucher du soleil et prend fin avec la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge est la rougeur visible du côté du couchant après le coucher du soleil. Pour Al-Isha, son temps commence après le temps de Al-Maghrib et dure jusqu'à l'apparition de l'aube véritable. L'aube véritable est une blancheur transversale apparaissant à l'horizon est, qui commence fine, puis se propage et s'élargit. Donc, quant à l'Aïcha, son temps commence après le temps de l'Maghreb, c'est-à-dire la disparition de la lueur rouge du côté ouest, et dure jusqu'à l'apparition de l'aube véritable. L'aube véritable est une blancheur transversale apparaissant à l'horizon est, qui commence fine, puis qui se propage et s'élargit. Pour ce qui est de As-Sobah, son temps est après le temps de Al-Isha, c'est-à-dire avec l'apparition de l'aube véritable et prend fin avec l'apparition du disque solaire. Il est un devoir de connaître les temps de ces cinq prières et tous les jugements nécessaires qui y sont relatifs. Donc pour ce qui est de As-Sobah, son temps est après le temps de l'Aïcha, c'est-à-dire à l'apparition de l'aube véritable, jusqu'à donc l'apparition de la première partie du disque solaire. La connaissance des temps des prières et l'accomplissement des prières dans leur temps, ni avant ni après, sont obligatoires. Il est donc un devoir d'accomplir chacune des cinq prières dans son temps. Il n'est pas permis de l'avancer par rapport à son temps, ni de la reculer par rapport à son temps sans excuse, car Allah Ta'ala dit: Fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahoun, ce qui signifie: Al-wail à ceux qui font la prière et qui la retardent par sahou. Ce qui visait ici par as-sahou, c'est retarder la prière par rapport à son temps, de sorte que le temps de la prière suivante commence. Allah a menacé celui qui n'accomplit pas la prière dans son temps par Al-Wail, qui est un grand châtiment. On comprend de là que celui qui a anticipé la prière, c'est-à-dire l'a accomplie avant le début de son temps, sa prière n'est pas valable. Celui qui l'a reculée par rapport à son temps aura désobéi à Allah à cause de ce retard. Le plus grave des deux péchés, c'est le péché de l'anticipation, c'est-à-dire accomplir la prière avant son temps. Car celui qui le commet ne s'est pas déchargé de cette prière, elle reste à sa charge, sa prière n'étant effective ni dans son temps ni en rattrapage. Donc le plus grave des deux péchés, c'est celui qui fait avec son temps, car la prière ne compte pas du tout. Mais celui qui l'a fait après son temps, elle comptera en rattrapage. Et il a le péché donc d'avoir retardé, mais elle comptera. Alors que celui qui fait avant son temps, elle comptera pas du tout, elle restera à sa charge. La parole sans excuse valable exclut le cas où la personne a retardé sa prière pour une excuse valable. On ne commet pas de péché en le faisant. L'excuse valable pour cela, c'est ce qui rend permis le rassemblement des prières comme le voyage ou la maladie. Celui à qui survient un empêchement après le début du temps de la prière, il lui faudra la rattraper après l'achèvement de l'empêchement. Comme par exemple si une femme a des menstrues pendant le temps de Adh-Dhuhr ou si quelqu'un a été atteint de folie ou d'évanouissement. Après que se soit écoulé, depuis les débuts du temps de la prière, un temps suffisant pour accomplir la prière, ainsi que sa purification pour celui qui ne peut pas anticiper la purification pour sa prière par rapport à son temps, comme quelqu'un qui est incontinent, cette personne a un jugement particulier. Donc, si la personne elle n'a pas fait la prière au début de son temps, elle a eu le temps encore, après elle a eu un empêchement, comme les menstrues pour la femme. Dans ce cas, elle va rattraper donc cette prière. Donc, s'il s'est écoulé du temps de la prière depuis le début un temps qui suffisait pour la prière et qu'elle n'a pas accompli cette prière, donc elle devra la rattraper après la fin de l'empêchement. Sinon, le reste des prières, donc la femme, donc elle ne va pas les rattraper. Mais la femme qui l'a menstruée, elle rattrape le jeûne. Et Dieu a facilité pour la prière, donc elle ne rattrape pas, sauf la prière du début de l'empêchement. Si il s'est écoulé depuis le temps de la prière un temps qui suffisait pour la faire, comme Dhuhr est rentré depuis un quart d'heure, elle n'a pas fait encore, elle avait le temps. Et après, elle a eu les menstrues. Donc, elle ne peut plus faire, mais elle va rattraper ce dhuhr-là après donc, la fin de l'empêchement, car ce temps, le temps qui s'est écoulé, le temps qui s'est écoulé suffisait pour faire la prière. Maintenant, si l'empêchement s'achève alors qu'il reste encore du temps de la prière, le temps de dire Allahu Akbar, elle devra être accomplie, ainsi que la précédente si elle se rassemble. On devra faire la prière de Al-Asr avec la prière de Al-Dhuhr si l'empêchement s'achève alors qu'il reste un temps suffisant pour dire Allahu Akbar avant le coucher du soleil. Et la prière de Al-Isha avec la prière de Al-Maghrib si la fin de l'empêchement précède l'aube véritable d'un temps suffisant pour dire Allahu Akbar. Donc si au moment où les menstrues s'arrêtent, par exemple, ça s'est arrêté, pendant Dhuhr. Donc là, elle va faire Dhuhr, elle va faire le ghusl, elle fait Dhuhr. Si ça s'est arrêté juste, par exemple, 1 minute avant que l'Asr y rentre. Donc elle va faire le ghusl et elle fait Dhuhr et l'Asr. Et si c'est arrêté pendant l'Asr, donc elle va faire l'Asr et Dhuhr. Et si c'est arrêté, il restait un temps un peu. Un temps qui suffisait pour dire Allahu Akbar avant le Maghreb. Elle fait le ghusl et elle va faire Dhuhr, l'Asr et le Maghreb. Donc l'Asr, ils vont ensemble dans ce cas-là parce que ils se rassemblent dans le cas d'excuse comme le voyageur. Donc dans ce cas, quand l'empêchement, quand les menstrues s'arrêtent, avant la fin de l'Asr, qui est le coucher du soleil, d'un temps suffisant pour dire Allahu Akbar, elle devra rattraper dans ce cas-là Al-Asr et Al-Dhuhr. Donc il est du devoir de tout musulman d'ordonner à sa famille d'accomplir la prière. Donc c'est un devoir d'ordre communautaire. Ainsi, si la science lui-même, il lui est un devoir de leur enseigner ou de leur permettre d'apprendre auprès de quelqu'un qui leur enseigne. Il lui est donc interdit dans ce cas de les empêcher de sortir pour apprendre, au point qu'il n'est pas permis à l'époux d'empêcher son épouse de sortir pour apprendre si lui-même n'a pas la science ou si il a appris mais a négligé l'enseignement, il ne lui a pas amené quelqu'un donc qui lui enseigne. Ceci est tiré de la parole de Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara. Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'homme et de pierre. Sourate At-Tahrim. Notre maître Ali, que Allah l'agrée, a dit, apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien, c'est-à-dire les sujets de la religion. Rapporté par Al-Hakim. Celui qui aura appris pour lui-même les sujets indispensables de la religion et qui les aura enseignés à sa famille se sera préservé lui-même ainsi que sa famille du feu de l'enfer. Mais celui qui ne l'aura pas fait se sera mené à sa perte lui-même ainsi que sa famille. Il est un devoir pour le musulman et la musulmane d'ordonner le bien, que ce soit la prière, le jeûne et ce qui est de cet ordre, en leur enseignant s'ils ne l'avaient pas encore appris. C'est un devoir d'ordre communautaire à l'égard de tout autre musulman en dehors de sa famille. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ce qui signifie vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc pour finir, on résume le temps des prières, qu'il est un devoir de savoir. Donc on a dit, il y a cinq prières, celui qui les accomplit pas par paresse, c'est un musulman grand pécheur. S'il les renie ou les rabaisse, il devient mécréant. Mais on rappelle une règle, si quelqu'un ne fait pas la prière, c'est un grand péché, mais s'il fait le jeûne il compte tout seul. Et la prière compte tout seul, toute seule. S'il ne fait pas la prière, c'est un grand péché. Et s'il fait le jeûne il reste valable. Mais s'il ne fait pas le jeûne en plus, ça fait des péchés en plus. Donc, cinq prières, dhuhr, son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel et dure jusqu'à ce que l'ombre de l'objet a atteint une longueur égale à l'objet après avoir retranché l'ombre du zénith. Dans notre exemple, c'était 10, plutôt 1 mètre plus 30, ce qui fait 1 mètre 30. C'est un exemple. 30, on a dit la longueur de l'ombre quand le soleil était au milieu du ciel, et 1 mètre la longueur de l'objet. Donc l'addition de cela nous donne la longueur de l'ombre de l'Asr. L'Asr dure jusqu'au coucher du soleil. Quand le soleil s'est couché, c'est Al-Maghrib. Al-Maghrib, on a le temps environ 1h20 jusqu'à ce que la lueur rouge disparaît du côté du couchant. Quand la lueur rouge a disparu, c'est le temps de l'Aïcha qui dure toute la nuit jusqu'à l'aube. L'aube qui est une lueur blanche horizontale, donc légèrement fine, qui apparaissant du côté est, qui commence, s'élargit, se propage. Là, c'est le temps de As-Subh. Donc il y a deux rak'a obligatoires seulement au Subh, il y a deux rak'a surrogatoires, sunnah. Donc comme on a vu, celui qui ne fait pas le surrogatoire, il n'a pas commis de péché, mais il a raté des récompenses. Et bien sûr, l'obligatoire, il a plus de récompenses que le surrogatoire. Mais s'il fait l'obligatoire, il a des récompenses. Et s'il fait en plus de surrogatoire, il a des récompenses en plus. Donc le sobh finit quand le soleil se lève. Et là, toute la matinée, donc il n'y a pas de prière obligatoire. Donc voilà les temps des cinq prières qu'il est un devoir de savoir, en fait. Il faut les connaître, il suffit pas de se baser simplement sur un calendrier, il faut connaître ces temps-là. Même si quelqu'un ne l'observe pas tous les jours, mais il sait les temps, il peut se fier à quelqu'un qui a observé, ou voir lui-même observer quand il peut. Observer quand il peut, quand il y a le... Ensuite, selon ce que le temps, il augmente ou il diminue, il va rajouter ou diminuer. Donc là, par exemple, le temps, il commence à augmenter. Donc c'est un devoir de connaître ces temps-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim » qui signifie « Quérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. » Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala Muhammad tahil amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da' Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alameen.